Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. 4 heures de conférence de presse. Emmanuel Macron, largement en tête dans les sondages, a dévoilé hier son projet pour un nouveau quinquennat. L'Info C'est clair est intitulé Emmanuel Macron dans un fauteuil. Conférence de presse hier du président qui était pour l'occasion candidat puisqu'Emmanuel Macron a dévoilé son projet pour un nouveau quinquennat. Résumé et moment choisi avec Jeff Wittenberg et Giona Messina.
La mise en scène se veut sobre. Les objectifs du président candidat, eux, sont des plus ambitieux.
Bonjour mesdames et messieurs. Merci beaucoup.
Le plein emploi dans 5 ans, une France plus indépendante face, dit-il, au retour des crises et de la guerre. Il a même un slogan en tête.
C'est d'essayer qu'on soit à la fois plus fort et plus heureux tous ensemble.
Dans le détail, Emmanuel Macron dévoile un large catalogue de propositions. On en connaissait déjà les plus emblématiques, comme la retraite à 65 ans. Celle-ci s'accompagnerait côté recettes d'une baisse des impôts de 15 milliards en 5 ans, côté dépenses de 50 000 recrutements dans les EHPAD. Une autre proposition risque de faire débat, l'obligation pour les bénéficiaires du RSA d'avoir une activité de 15 à 20 heures par semaine.
Je ne propose pas des travaux d'intérêt généraux pour les bénéficiaires du RSA. C'est l'inverse. Je propose un travail, une formation, une insertion.
Armée, frontières, réforme sociétale, de ce côté-là, pas de révolution dans les projets du candidat Macron. Il souhaite généraliser le service national universel, durcir l'obtention des titres de séjour avec le passage d'un examen de français ou encore organiser une convention citoyenne sur la fin de vie. Au final, un programme de droite, de gauche, voici la réponse de l'intéressé.
Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement.
Les concurrents d'Emmanuel Macron y ont plutôt vu un programme qui penche à droite.
J'ai vu effectivement sur pas mal de sujets beaucoup de contrefaçons, mais qui dit contrefaçon dit mauvaise copie.
Un programme de brutalité sociale, un programme qui va continuer à nouveau à être le programme du président des riches.
Emmanuel Macron a chiffré son programme, 50 milliards d'euros par an financés par les économies et par les réformes.
Alors, nos invités pour revenir et commenter cette conférence de presse hier d'Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Marteau, vous êtes journaliste au service politique de France Télévisions, Rachel Binas, vous êtes journaliste indépendante, bonjour. Et Yasmina Jaffar, bonjour, vous êtes présidente de la Ruche Média, journaliste à Franc-Tireur, un Franc-Tireur qui titre cette semaine, Ukraine, journal de bord d'un résistant français. Jean-Baptiste Marteau, on va regarder la presse ce matin. Pas emballé par cette conférence de presse, hein, qui a duré près de 4 heures.
Plus de 4 heures.
Plus de 4 heures, ah oui, c'était long. Libération titre ce matin, il y pense en nous rasant. D'ailleurs, c'était rasoir.
Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on nous avait parlé depuis des semaines. Vous allez voir, ça va être un programme très innovant, disruptif, nous disait-nous, qui va casser les codes, extrêmement réformateur. On va retrouver le président Emmanuel Macron révolutionnaire, parce que vous voyez que son livre en 2017 s'appelait « Révolution ». Bon, c'est vrai que là, ce qu'on a vu hier, c'était extrêmement classique. C'était, on aurait pu dire, presque un discours, une conférence de presse de mi-mandat d'un président qui fait le bilan de ce qu'il a fait et qui propose de continuer encore sur cette ligne tracée depuis 2017 pour encore 5 années supplémentaires. C'est vrai que le côté complètement révolutionnaire, on l'a pas vraiment vu. Il n'y avait pas d'idée absolument nouvelle parce que tout ce qui a été annoncé, la réforme de la retraite notamment, etc., ça avait déjà été sorti par des porte-paroles, notamment de sa campagne ces dernières semaines. Donc, pas de surprise, mais un président de la République qui continue sur cette ligne, ni de droite ni de gauche, en faisant des réformes, sans pour autant vraiment être disruptif comme il nous avait promis.
Et Rachel Binas, on a retenu comme slogan, Jeff Wittenberg le disait, être plus fort et plus heureux tous ensemble. Alors là, comme consensuel, on pourrait dire, et qu'il fasse beau en été et que la pluie ne mouille pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être plus consensuel que ça. C'est absolument pas clivant. C'est, en fait, on a un président à 31% dans les sondages. Ne pas prendre de risques, c'est ça sa tactique.
Tout à fait, et continuer sur l'idée d'un rassemblement. C'est-à-dire qu'après avoir participé à la fin, quelque part, du PS, aujourd'hui, c'est vers les LR qu'il se tourne. Et il y a en effet D'ailleurs, il y avait très peu de mesures réelles annoncées. C'était plutôt des vœux, des tendances.
Pas eu d'effet waouh, comme on dit.
Réformer l'espace Schengen, le plein emploi, tout ça, normalement, doit s'accompagner de mesures concrètes. Or, ce qui se passe dans cette campagne, ou dans cette non-campagne, c'est peut-être la fin du politique au sens du comment. Ah. C'est-à-dire que nous n'avons pas de comment. Nous avons des vœux, nous avons des souhaits, qui sont à peu près partagés par tous. Le retour, voilà, d'un plein emploi,
des
soignants,
de la souveraineté.
Exactement, de la souveraineté, qu'elle soit industrielle ou alimentaire. Mais nous avons très peu d'éléments sur comment fait-on, ce qui est le propre quand même de la politique. Ceci, il évacue, et il évacue, on peut peut-être l'imaginer, pour pouvoir continuer à rassembler. Il le dit lui-même quand il est attaqué, je me fiche que ce soit de droite ou de gauche. Il y a toujours cette idée du candidat de 2017, je veux transcender les clivages et aller plus loin pour l'intérêt de la France, cette position un peu de pater familias.
Du coup, Yasmina Jaffar, c'est vrai qu'on n'a pas d'effet waouh, on n'a pas de clivage politique, et du coup, on a des mesures pour être mieux et très techniques, à tel point que le président avait visiblement conscience de la technicité de ses propos par moment, et il a dit « dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair », comme s'il avait eu peur de perdre par sa technicité les journalistes qui l'écoutaient pendant 4 heures.
Surtout quand il annonce, avant d'être entendu, qu'il a 6 points à aborder. Donc quand on sait qu'un point, c'est 1h30, j'imagine que dans la salle, vous deviez tous absolument exsangues en disant « bon, on en a pour la nuit ». Oui, alors quand on sait en plus que le profil était très technocratique, 5 heures à écouter quelqu'un qui, on l'a vu dans les grands débats, on l'a vu, qui est très bon en campagne, c'était un homme de campagne. Donc par rapport à 2017, ça n'a pas changé. Mais au fond, pour le fond, ça rappelle un petit peu la lettre qu'il avait écrite aux Français il y a quelques semaines, on a eu le sentiment que ça a été fait dans un coin rapidement parce qu'on comprend qu'il est appelé à d'autres choses. Et là, une campagne qui est une revue de presse, il parle des EHPAD. Récemment, on a eu quand même quelques soucis par rapport aux EHPAD. Il répond à l'instant, au moment, à l'immédiateté. Donc moi, j'ai eu le sentiment de 4 heures de revue de presse, pas forcément, en effet, le candidat révolutionnaire d'il y a 5 ans, mais parce qu'il a bien compris aussi que la révolution, tout le monde n'avait pas ce goût-là et qu'il valait mieux être pragmatique. Et il l'a dit pendant ces heures-là, la situation macroéconomique mondiale me permet peut-être de continuer la réforme des retraites, mais pas vraiment pareil. Donc on va essayer, mais tout en fonction de l'immédiateté.
De ce qui est possible. Hein.
Voilà. Un mot sur la technicité, effectivement, des mesures qu'il a annoncées. C'est vrai que d'ailleurs, Éric Zemmour dénonçait hier soir sur France 2 dans l'Élysée 2022 que c'était un discours de Premier ministre. Mais c'est aussi ce qu'il a voulu montrer. C'est-à-dire que moi, je maîtrise tous les dossiers. Regardez, tous les petits thèmes, toutes les mesures que je vous annonce de réforme, et à la fois sur le bilan et sur le programme, bien moi, je les maîtrise parfaitement, sous-entendu, contrairement à mes adversaires qui peinent à exister dans cette campagne en faisant de grands principes, mais n'en maîtrisant pas totalement ces dossiers. Et c'est vrai qu'en période de guerre, comme en ce moment avec l'Ukraine, un président qui maîtrise ses dossiers, c'est forcément un atout pour beaucoup d'électeurs.
Et c'était important aussi pour le président de se placer au-dessus, parce que c'était le président sortant, en choisissant d'autres thématiques, celles qui ont été décidées par Éric Zemmour depuis le mois de septembre.
Ça, on va y revenir, l'immigration, l'identité.
En prenant tous les dossiers, il indique qu'il a plusieurs cordes à son arc.
Alors, on a dit une conférence de presse qui a duré 4 heures, très technique, pas de mesure waouh. Vous faisiez référence à la campagne, à la précédente campagne de 2017. Mais justement, on a retrouvé cet extrait fameux, vous nous regrettez, c'est un cliché, mais pour le plaisir, on repasse ce moment très connu, c'était Porte de Versailles, nous sommes le 10 décembre 2016, et le candidat Macron est disruptif jusqu'à la rupture. On écoute.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Alors, Rachel Binas, là, on avait un président disruptif. Alors qu'avec, là, aujourd'hui, il nous propose 50 plus, quoi.
Alors,
50 Macron ferme en plus.
Bien sûr. De toute façon, les grandes lignes, le fil conducteur est le même, la ligne rouge. On retrouve quand même les éléments, le libéralisme, les éléments essentiels qui étaient déjà dans son programme de 2017. Mais en effet, il y a une sobriété aujourd'hui. Cette scène-là, il n'aurait pas pu la jouer. Vous l'avez dit, il y a l'immédiateté, il y a en fait le contexte international qui s'impose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'histoire, on observe déjà un retour des manuels scolaires, des manuels scolaires d'histoire qui s'inscrivent maintenant dans notre quotidien. Et puis, c'est le retour de l'histoire face au sociétal. Le président, le candidat en tout cas, devenu ensuite président de 2017, aujourd'hui doit prendre en compte ce tragique, ce retour du tragique, comme on l'a souvent dit dans les médias. Et il y est obligé par justement, notamment, cette guerre. Mmh. Donc, en effet, c'est aussi un contexte international, notamment, qui appelle à une forme d'apaisement ou voilà, d'une manière.
La société française est moins en demande de projets disruptifs et de renverser la table.
Ah, elle est surtout en demande, elle veut être rassurée. Il doit justement rassurer, expliquer qu'il est là, qu'il est aussi quelque part un peu chef de guerre. Et d'ailleurs, ce sont les éléments, parce que quand on regarde les 8 pages de son projet, c'est l'élément premier qui arrive, hein. C'est l'armée, et puis ensuite la question de la souveraineté industrielle et alimentaire qui sont aujourd'hui, qui font partie des inquiétudes des Français.
Jean-Baptiste Marteau, il est largement en tête dans les sondages, à tel point qu'on a titré cette émission « Dans un fauteuil ». Il est favori. Est-ce que c'est confortable d'être favori? Est-ce que du coup, on est un peu comme le Paris Saint-Germain, on ne prend plus aucun risque et on ne joue plus, on est paralysé et on se prend des buts à la fin?
Dans une campagne classique, ordinaire, présidentielle, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il y a encore quelques semaines, tout son entourage avait très très peur de cette entrée en campagne en disant « attention, au moment où il va se déclarer candidat, on va perdre 4-5 points dans les sondages, ça va être un peu dur et c'est là où il va falloir serrer les rangs pour montrer que justement on est solide et on peut remontrer. » On l'a vu d'ailleurs, tous les candidats, au moment où ils rentrent en campagne, il y a peut-être un petit effet, Valérie Pécresse l'a eu, et derrière, si vous n'êtes pas à la hauteur, si vous êtes trop confiant, si vous n'arrivez pas justement à imprimer vos thèmes dans le débat, ben vous perdez effectivement des points et vous dévissez dans les intentions de vote. Et là, on pourrait se dire qu'effectivement, c'est le moment de prendre des risques. Et bien là, il ne les prend pas. Regardez, il y a deux thèmes hier quand même.
Pourquoi prendre des risques quand on est à 31% dans les sondages?
Et effectivement, mais par exemple, sur des thèmes essentiels ou géants en ce moment, où on se dit qu'il faut réformer. Les réformes institutionnelles, on voit qu'on va encore battre un record d'abstention pour cette présidentielle, qu'effectivement, ça fait des années qu'on nous parle de plus de proportionnel, de réformer un peu le rôle du législatif, d'ordonner un peu plus de voix aux citoyens, les faire participer au débat. Bon, bah, la réforme institutionnelle, Emmanuel Macron, il nous dit, on va renvoyer ça à une commission, ça nous refait parler à la commission Balladur qui avait déjà il y a plus de 10 ans. La fin de vie, pareil, on attendait il y a quelques mois qu'il rentre justement sur le dossier de l'euthanasie en disant, tiens, oui, je vais légaliser le choix pour les Français pour leur fin de vie. Et bien là, pas du tout. Il renvoie ça à un comité Théocule encore en disant « je vais concerter les Français et on soumettra ça éventuellement à référendum ou au Parlement ». Pas de risque. Pas de risque, effectivement. Mais peut-être qu'il n'en a pas besoin parce qu'aujourd'hui, à 30%,
Cette phrase, le plus grand risque serait de ne pas en prendre. Cette phrase. Bon, en même temps, est-ce que la mantra d'Emmanuel Macron, c'est ne pas faire d'erreur? Là, on est à 23 jours, quoi.
Exactement.
Premier tour.
On vote dans 4 dimanches à partir.
Ouais.
Voilà, ça va très très vite. Et je crois, enfin, j'ai le sentiment que la campagne, en effet, c'est pas son idée actuelle. Il a plutôt envie de passer et d'enjamber cette campagne et d'arriver comme une continuité. Et à chaque fois qu'il a pris la parole depuis qu'il s'est déclaré, il indique qu'en juin prochain, il se passera ça, qu'à la rentrée, il va indiquer telle réforme, il va continuer. Et il n'y a pas une volonté de débattre ou de descendre dans l'arène, même dans sa sémantique, pour arriver à dire à ses concurrents, je me place avec vous sur une ligne de départ et nous verrons qui arrivera en premier. Pour tout le monde et pour les Français, dans la façon et dans la rhétorique et dans les mots qu'il emploie, c'est une continuité. Le fait de prendre le mot projet, sur lequel il rit, c'est un homme de communication, c'est aussi marqué, j'ai marqué les esprits avec ce mot à l'époque, je le retourne pour vous aujourd'hui, de la manière que la phrase « avec vous », c'est « je continue simplement ce que j'avais à faire », et il l'a dit hier durant les 4 heures, « parce que j'ai été empêché, je vais pouvoir continuer ce que je n'ai pas pu faire ». Donc c'est presque une promesse à la retraite, on est
alors, un vrai exemple. Sur le fond des propositions, Rachel Binas, je reprends un autre titre, le sous-titre de Libération, Macron, un président qui pompe LR. Et c'est vrai que, alors, pour le coup, beaucoup à droite s'égosillent en disant « c'est pas un programme, c'est un pillage ». Est-ce que les propositions d'Emmanuel Macron, alors on pense à la retraite à 65 ans, on pense à la contrepartie, au RSA. Est-ce que, clairement, c'est un programme qui penche un peu à droite avec en ligne de mire cet électorat?
Bien sûr. Bien sûr, mais déjà en 2017, c'était le cas. Mais il l'assume également. Ça fait partie du fameux en même temps, de cette volonté justement.
C'est toujours en même temps ou c'est surtout le temps de la droite ?
Alors, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est plutôt à droite. Et puis, quand vient une crise sociale, on tente comme ça de tourner le volant à gauche. Mmh. Mais en effet, c'est plutôt un président de droite, ce qui n'est pas un gros mot hein, dans ma bouche. Mais il est difficile quand même de soutenir l'inverse. Alors, certes, il y a l'aspect sociétal sur lequel on pourrait débattre, mais encore une fois, il a été mis un petit peu plus du côté du fait justement de la situation notamment internationale. Mais ensuite, que les LR crient au plagiat, c'est une chose, mais ça va être quand même difficile de soutenir l'idée que leur situation actuelle repose sur un vol et sur un pillage. Pourquoi eux ne sont pas audibles dans ce cas-là ? Ah ouais. C'est surtout ça la question qui devrait se poser.
Vous voulez dire c'est dangereux de dire Macron reprend nos idées, ce qui voudrait dire à l'électorat de droite ? Allez-y, bien votez sûr. Macron, vous avez les mêmes bien propositions sûr. Que chez nous.
Avec la possibilité assez forte, justement, qu'il l'emporte. Donc là, on voit en fait une bête blessée chez les LR. Ah. Une Pécresse qui a pris malgré elle un toboggan, parce que bon, la perte de points quand même dans les sondages ne cesse, enfin l'hémorragie ne s'arrête pas. Et là, il y a une espèce de retour de l'ego qui n'est pas capacitaire, qui n'est pas productif, en disant oui, de cours de récréation quasiment, je dis ça sans mépris, mais voilà, ils ont triché, certes, mais là, le travail de fond que doit mener les LR va bien plus loin qu'une simple dénonciation comme ils le font aujourd'hui.
Yasmina Jaffar, c'est vrai que Valérie Pécresse est à 11% dans les sondages, elle décroche, elle est quatrième. Le pari d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle peut tomber plus bas et donc il y a des voix à récupérer là.
Exactement.
Si elle tombe à 8, il y a encore 3 points à récupérer.
Tout à fait. L'idée, c'est d'aller séduire l'électorat de Mme Pécresse qui se dit, bon, ben, depuis le 13 février, mais bien avant ça, de toute façon, elle avait du mal à imprimer. Il y a eu un effet waouh le jour où elle a gagné la primaire ouais. interne. Mais ensuite, face au pupitre, elle a montré une incapacité à incarner. Ce que sait faire Emmanuel Macron, c'est de prendre les idées des autres, en effet, mais en tout cas, il sait les vendre. Il y a quelque chose, comme c'est un homme de campagne, il sait travailler l'idée comme si ça venait de lui et la rendre sexy. La difficulté qu'il a ensuite, quand il est en campagne et quand il est en pouvoir, c'est d'arriver à expliquer ce qu'il a fait. Donc, parce qu'il n'est plus l'homme seul, même si on parle de cette personnalité, quand il est au pouvoir, il a quand même une équipe autour de lui. Et il arrive moins à vendre dans les faits qu'en campagne. C'est vraiment un homme de campagne, de conquête.
Alors, Valérie Pécresse, on le disait, hein, qui se retrouve en quatrième place dans notre sondage France Info. Valérie Pécresse qui est allée en Corrèze le week-end dernier sur les terres de Jacques Chirac pour remobiliser ses foules et tenter de remonter dans la dernière ligne droite. Voyez ce reportage donc en Corrèze d'Hélène Hugues et Jean-Marie Lequartier.
Aux dernières présidentielles, la Corrèze avait choisi Emmanuel Macron dès le premier tour. Pour reconquérir ce fief LR, Valérie Pécresse, la parisienne, joue la carte locale. Passage obligé, les Halles de Brive.
Ça va bien ?
Oui, vous.
C'est trop bon. Donc fromage de chèvre et yaourt de chèvre.
Fromage de vache et de chèvre.
Ici, elle adopte des accents chiraquiens et ça fonctionne.
Et donc, caviste.
C'est ça.
Et alors, quelle est votre spécialité, monsieur le caviste ?
Le rouge.
Le rouge ?
Je peux vous offrir une bouteille de cidre, du coup.
Ah, bah écoutez, alors, avec grand plaisir.
Vous mettre la Corrèze à l'honneur.
Allez.
C'est pas manger des pommes, c'est buver des pommes cette fois.
C'est ça, c'est manger des pommes, c'est un vrai
slogan. Elle fait très naturel et. Elle est vraiment agréable à parler. Ouais. Ouais. C'est vrai. Hein.
Elle fait mieux qu'à la télé, on va dire. Ah oui, elle a l'air de maîtriser l'exercice, effectivement. Elle est très naturelle, semble-t-il. Voilà, on l'a saluée très gentiment.
Ça donne envie de voter pour elle ou...
On va peut-être pas aller jusque-là non plus.
En Corrèze, Valérie Pécresse a reçu le soutien des fidèles de Jacques Chirac, de sa fille Claude à François Baroin. Cela lui suffira-t-il pour remonter la pente ? En politique, une éclaircie est toujours possible.
Jean-Baptiste Marteau, et il est terrible là, ce témoignage qu'on vient d'entendre. Là, elle est très bien, de là à voter pour elle, faut pas exagérer.
Le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'on parlait des mesures qui impriment ou pas dans la campagne, et depuis son entrée en campagne, depuis notamment ce grand meeting raté de la Villette, rien n'imprime. Il n'y a aucune mesure phare de Valérie Pécresse qui a réussi à émerger un petit peu de l'écume de cette campagne, ou plutôt de cette non-campagne. Et le problème, la seule chose qu'on retient effectivement de Valérie Pécresse, qu'elle nous répète en boucle, qu'elle a encore dit hier pour réagir aux ces annonces d'Emmanuel Macron, c'est lui, il fait des annonces, mais moi je vais faire, moi je serai la candidate qui va faire, etc. Faire, elle n'arrête pas à dire, mais faire quoi? On a du mal à savoir exactement. Donc c'est tout le problème de Valérie Pécresse, comme d'autres candidats, c'est qu'Emmanuel Macron a maintenant tellement élargi son spectre, effectivement, en prenant des idées à droite, il l'assume complètement, en prenant aussi à gauche, quand il parle de l'école, même quand il parle des droits de succession, Fabien Roussel est en train de dire « Attendez, oh, c'est mon idée, c'est exactement les barèmes que j'avais annoncés et tout ». Ben oui, mais Emmanuel Macron, il assume, il prend à droite, il prend à gauche. Et d'ailleurs, maintenant, effectivement, ce qu'il va commencer à faire, et on l'a senti déjà en début de semaine dans une interview qu'il a donnée sur une chaîne concurrente, où il disait « Moi, j'ai entendu des choses dans cette émission, vous savez, ce fameux débat 8 sur TF1, où il disait « J'ai entendu des choses intéressantes chez d'autres candidats ce soir-là, et on sera peut-être amené à travailler ensemble. » Sous-entendu, effectivement, moi, maintenant, je vais aller chercher des gens de droite qui peut-être n'ont pas envie de faire 5 ans de plus dans l'opposition. Ça fait déjà 10 ans que LR et UMP, puis LR, est dans l'opposition. Ça commence à faire beaucoup pour des quadras qui en ont un petit peu marre, qui voudraient être ministres, rentrer dans un gouvernement. Il pourra également faire la même chose avec des gens, pourquoi pas, du Parti Socialiste intéressant qui pourraient ramener chez lui. Pourquoi pas même à Fabien Roussel. Il est capable de tendre la main à tous ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'ils la saisiront? On verra. Mais le problème pour Valérie Pécresse, c'est que là, il n'y a rien qui sort. C'est une campagne plate qui... Et on ne sait pas du tout comment elle peut justement arriver à renverser la vapeur et à exister dans cette campagne.
Et Rachel Binas, il y a cette rumeur, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais que Nicolas Sarkozy pourrait appeler à voter Emmanuel Macron, ce serait quand même trahir son camp, non? Enfin, je...
Oui, bien sûr, ce serait une forme de trahison et puis un coup de grâce pour les LR. C'est comme mettre de la terre sur le cercueil justement de ce parti. Alors, ses proches intimes, hein, j'entends là, lui ont posé la question, puisqu'on parle justement d'une annonce qui interviendrait dimanche, enfin en fin de semaine. Lui dément auprès de ses intimes. Alors, pour d'autres, justement, il justifierait sa position au nom de la guerre en Ukraine. Certes, ça serait certainement vécu comme un prétexte du côté des LR, mais ça serait extrêmement violent pour ce parti qui, aujourd'hui, peine justement à sortir la tête de l'eau.
Oui, juste sur Nicolas Sarkozy, effectivement, selon plusieurs proches, effectivement, que j'ai encore eu au téléphone hier, il va rester dans une espèce de neutralité, dire effectivement que la période ne se prête pas au ralliement à tel ou tel. Il va être un peu resté au-dessus de la mêlée, mais déjà, ne pas soutenir Valérie Pécresse, issue de sa famille politique, c'est déjà horrible pour elle, et c'est déjà un aveu terrible, effectivement, qu'ils ne soutiennent pas Valérie Pécresse. Donc, il ne va pas aller jusqu'à soutenir Emmanuel Macron, mais déjà, ne pas soutenir Pécresse, c'est déjà presque la même chose.
Yasmina Jaffar, c'est terrible. D'ailleurs, hier, il y a un journaliste qui a carrément posé la question « Est-ce que Valérie Pécresse pourrait travailler pour vous ?» Et Emmanuel Macron a répondu « Je n'exclus rien ». Oui. C'est une façon de dire « Venez à moi, petit LR, élu et électeur ».
Oui, tout à fait. C'est vrai que il y a cette capacité chez Emmanuel Macron de séduire et d'essayer de d'embrasser avec lui une énergie. Il le fait aujourd'hui avec plus de sobriété. Et le fait, c'est qu'il peut être plus entendu parce qu'il y a eu l'effet nouveauté il y a quelques années dans une campagne qui nous avait rendu tous exsangues avec 4 finalistes à 20%. Il avait vraiment été...
Et puis, il sortait du gouvernement Hollande il y a 4 ans, donc c'est peut-être plus dur pour les gens de droite d'aller voter pour un candidat issu du gouvernement Hollande.
Non, bien sûr. Et au bout de 5 années, on s'est rendu compte qu'il pouvait s'adapter à la situation et pouvoir avoir des propositions comme le RSA ou en lien avec l'inflation et les salaires des fonctionnaires. Il arrive à s'adapter selon la circonstance à droite ou à gauche. Donc pourquoi pas arriver à rallier, non pas faire de l'ouverture comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, mais faire du ni droite ni gauche. Et continuer dans sa cohérence qui est un énorme parti, on parle de l'union des droites, donc un énorme parti qui irait de la gauche à la droite et ça ferait encore plus une binarité très étrange et qui abîmerait peut-être la vie politique à long terme. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça peut marcher.
Rachel Binas, il y a un mois, on parlait beaucoup de la crainte de Valérie Pécresse. On a l'impression que c'était se faire piller son électorat sur sa droite par Éric Zemmour. Là, hier, on a eu l'impression que c'était surtout sur sa gauche, sur son centre par Emmanuel Macron. Son débat, d'ailleurs, a été sur le risque de voir son électorat fuir chez Éric Zemmour. Son débat contre Éric Zemmour a été plutôt salué. Elle s'en est plutôt bien sortie. Comme si elle avait réussi un petit peu à éteindre cet incendie. Non, vous êtes plus dubitative.
Je ne dirais pas qu'elle a été réussie.
Elle n'a pas raté.
C'est un échec. Je dirais simplement voilà. qu'elle n'a pas réussi. Elle n'a pas raté. Et pourtant, en effet, on pensait qu'on allait assister à quelque chose d'assez sanglant. Finalement, elle a limité la casse, disons. Mais personne n'est réellement sorti gagnant. Hein. Quand on voit un petit peu plus dans les détails... On voit que l'électorat, par exemple, fioniste, s'est un peu plus rapproché du côté de Zemmour que d'elle. Donc, en effet, après avoir été attaqué à sa droite...
Par sa droite, par Éric Zemmour.
Exactement. Maintenant, c'est de l'autre côté. Mais souvenons-nous que, en fait, Emmanuel Macron est dans la continuité de 2017. 2017, c'était le PS qu'il avait en ligne de mire. Et ça a plutôt réussi. Il suffit de voir un petit peu les sondages. Aujourd'hui, eh bien maintenant, c'est le tour des LR. Chacun son tour, mais ils y passeront tous, l'un après l'autre. Alors, relativisons tout simplement, enfin, quand même un petit peu le rôle de Macron là-dedans. Alors, c'est vrai qu'il leur fait beaucoup de mal, mais s'il peut le faire, c'est qu'il est aussi en face de deux partis qui sont considérablement affaiblis. Les origines ne se trouvent pas simplement dans les actions d'Emmanuel Macron.
C'est aussi parce que voilà, le LR et le PS étaient très faibles idéologiquement.
C'est des années de renoncement.
Jean-Baptiste Marteau. Non,
un mot peut-être sur ce qu'a réussi Valérie Pécresse quand elle a débattu face à Éric Zemmour. Et ces dernières semaines, c'est peut-être à mettre Éric Zemmour en difficulté justement sur ses thèmes de prédilection, notamment sur l'islamisme, l'immigration. Par exemple, quand il lui dit « Islam et islamisme pour vous, c'est la même chose, donc vous allez interdire les mosquées ». Et là, Éric Zemmour s'est retrouvé extrêmement peiné, ayant du mal à répondre, alors que ce sont ses thèmes de base qui nous rabâchent depuis plus de six mois. Et elle a réussi, je trouve, à le mettre en difficulté sur plusieurs, sur les visas également, sur deux, trois thèmes comme ça qui sont plutôt le cœur du discours d'Éric Zemmour. Malgré tout, est-ce que ça permet d'émerger et de ramener à elle certains de ses électeurs? Là, c'est un peu plus compliqué.
Je fais exactement le même constat et je crois que si elle a réussi à ne pas rater complètement cette entrevue avec Éric Zemmour, c'est parce qu'elle a arrêté de suivre Éric Zemmour sur les conseils, peut-être d'Éric Ciotti ou autre. En tout cas, elle a arrêté de parler grand rassemblement de la même manière qu'un Éric Zemmour. Et elle ne croyait pas à ce qu'elle disait, on s'en est rendu compte le 13 février. Au-delà de la difficulté orale qu'elle a, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à incarner son propos vu qu'elle ne le pensait pas. Aujourd'hui, elle a perdu du temps, mais c'est maintenant qu'elle réagit et qu'elle se dit « autant être moi-même et si je dois tacler quelqu'un qui me prend des voix, autant que je le fasse avec mes arguments ». Mais c'est un peu tard, ça arrive un peu tard, comme le ralliement de Marion Maréchal Le Pen qui arrive aussi un peu tard. Tout arrive un peu tard et donc Emmanuel Macron arrive assez tranquillement et il a raison, en 3 semaines, 4 semaines, de ne pas prendre de risques.
Alors, Éric Zemmour, qui hier était l'invité de Élysée 2022 et qui a tenté de réimposer son thème central, à savoir le thème du grand remplacement, de l'immigration non contrôlée. Et donc, il a cherché à dénoncer la présence d'immigrés infiltrés, de réfugiés infiltrés parmi les réfugiés ukrainiens. Je propose de revoir cet échange face à Yannick Jadot.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention. J'ai voulu absolument être prudent. C'est pour ça que je vous dis, c'est le point essentiel. Parce qu'on découvre déjà, M. Lesky, le patron de l'OFI, M. Lisnar, que dans ces réfugiés dits ukrainiens, il y a un tiers d'Algériens, de Marocains, d'Africains qui se sont faufilés dans cette ouverture du couloir Schengen. Absolument, monsieur. Lisez le Figaro d'il y a une semaine. Si, monsieur Jadot.
Non, mais continuez,
j'y réponds. Oui, je continue.
Continuez, j'y réponds.
Évidemment que je continue.
J'ai bien compris votre tri sur la question humanitaire.
Alors, Rachel Binas, ramener cette guerre ukrainienne à de soi-disant réfugiés infiltrés parmi ces pauvres Ukrainiens, c'est compliqué pour Éric Zemmour.
Hein. Alors, c'est surtout faux. Hein. Il faut c'est-à-dire que non seulement le directeur de l'OFI n'a jamais dit ça, et en plus, ce n'est pas du tout le cas. Rapidement, hein, en effet, sur ceux qui sont arrivés en France, un peu plus de 15 000, on va dire qu'un sur deux pour aller vite quitte la France, notamment pour gagner l'Espagne. Ils ne veulent pas spécialement rester en France. Et il y a entre 20 et 30% de non-ukrainiens. Ce n'est pas forcément des Algériens, c'est des gens en provenance du Ghana, souvent en fait des étudiants hein, qui est en Ukraine, Ghana, Congo, Nigeria, Turquie, Turkménistan. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais donc son chiffre est faux. La nationalité dont il parle, c'est pas vraiment le cas. Et il explique, je crois que M. Didier Leschi a dit ça, ce qui est également faux. Bon, on n'est pas, on va pas faire la liste de tous les éléments, mais en effet, il surfe là-dessus depuis le début. C'est son thème de prédilection. Hélas, qu'il maîtrise mal. Il ne semble pas s'améliorer sur ces questions-là, alors qu'elles sont essentielles pour lui. Et ça restera en fait son talon d'Achille, alors qu'il veut en faire sa force, en espérant mettre les autres candidats dans une situation bien plus délicate.
Jean-Baptiste Marteau, il n'empêche, Éric Zemmour avait réussi à imposer son thème et à marquer des points en imposant son thème au début de la campagne. On a l'impression que la guerre de Vladimir Poutine a été fatale pour sa campagne.
Complètement. C'était le thème, effectivement, qui lui a permis d'émerger dans le débat public et d'avoir une ascension très impressionnante jusqu'à être à 15 points dans les sondages.
Emmanuel Macron l'a imaginé au second tour.
Et il a été d'ailleurs donné au second tour à un moment, effectivement, devant Marine Le Pen. Donc, c'était une possibilité. Mais là, effectivement, à la fois la guerre en Ukraine l'a complètement décrédibilisé, parce que là, on a ressorti tous les propos qu'il avait tenus sur Vladimir Poutine, qui était quand même, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il soutenait complètement le chef du Kremlin et sa volonté de s'émanciper comme ça et d'étaler son territoire jusqu'en Crimée notamment. Il l'avait défendu en 2014. Et puis surtout, avec cette guerre en Ukraine, il y a d'autres thèmes qui ont émergé dans ce débat. Le thème du pouvoir d'achat, évidemment. Le thème de l'énergie. Et ça, ce sont des thèmes sur lesquels il se retrouve un peu enfermé dans sa doctrine, dans ses idées sur l'immigration. Il n'arrive pas à en sortir et à proposer des choses crédible aux yeux des Français sur effectivement ces thèmes, notamment le pouvoir d'achat, ce qu'a très bien compris Marine Le Pen. Oui. Écoutez-la en ce moment, elle ne parle que de pouvoir d'achat. Elle dit et redit, c'est sur le pouvoir d'achat que ça va se jouer, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'elle essaie d'être le plus sérieux possible, contrairement effectivement à Éric Zemmour qui, lui, et ça m'a étonné d'ailleurs hier soir dans ce débat, reste enfermé sur cette question identité, immigration, je veux sauver la France, dit-il. Très bien, mais c'est aujourd'hui un panel un peu plus large qu'il faut proposer aux Français.
Exactement, Yasmina Jaffar. D'ailleurs, des propositions d'Emmanuel Macron. Hier, on n'a absolument pas parlé, pas retenu, pas reproché au chef de l'État de ne pas avoir eu de position waouh sur ces questions que porte Éric Zemmour, à savoir l'identité, l'immigration, et que sais-je. Parce ça a disparu du paysage.
C'est pas l'heure, c'est plus l'heure. Est-ce que ça a été l'heure un jour? Ça a été vraiment créé, imaginé par ce phénomène Éric Zemmour, phénomène médiatique, instantané, éphémère, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une époque accompagnée de la promotion d'un livre et surtout une campagne qui n'avait pas démarré, ou plutôt assez vide. Marine Le Pen est en effet sur le sujet du pouvoir d'achat depuis longtemps et elle est dans le paysage de politique depuis très longtemps. Donc elle a eu le temps de changer, de muter depuis 5 ans. Elle a travaillé à ça. Elle a travaillé à avoir un ton plus doux. Les affiches de campagne sont très différentes quand Éric Zemmour est en face, lunettes droites, en disant impossible n'est pas français. Elle, c'est liberté chérie. Elle regarde vers le ciel avec du vert et des cheveux. Voilà, il y a presque un chat. Enfin, il n'est pas là, mais presque. Donc, elle a changé complètement d'image pour essayer de devenir plus audible. On a le sentiment qu'il la ringardise, mais au contraire, c'est lui qui est ringardisé par cette obsession autour de l'immigration. Si aujourd'hui, on commence à faire le tri, et M. Jadot a bien fait d'employer ce mot-là, on commence à faire un tri visible, mais les opinions publiques mondiales vont commencer à se dire, en effet, les Syriens, ce n'était pas exactement la même histoire. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a deux sons de cloche. Donc on ne peut plus faire cette erreur aujourd'hui.
Alors, vous parliez de Marine Le Pen qui a totalement recentré son image et poli son image, et c'est vrai qu'on a totalement oublié, et elle est sortie totalement indemne de cette séquence ukrainienne en faisant oublier, on a retrouvé dans les archives de l'INA tout simplement, cette visite 24 mars 2017, donc 2 mois avant l'élection présidentielle. Elle est allée à la rencontre du maître du Kremlin qui l'a reçue au Kremlin, Vladimir Poutine, sujet du 24 mars 2017.
C'est la première poignée de main officielle entre Marine Le Pen et le président russe. 1h30 à discuter de la lutte contre le terrorisme ou encore de la situation en Syrie. Vladimir Poutine ne le cache pas, c'est elle sa favorite parmi tous les candidats à l'Élysée, mais il se défend de toute ingérence dans la campagne présidentielle française.
Je sais qu'actuellement, il y a des élections en France. Nous ne voulons d'aucune manière influencer le cours des événements. Mais nous nous accordons le droit de rencontrer tous les représentants du pouvoir politique, tout comme les États-Unis et les partenaires européens le font.
Donc Rachel Binas, Marine Le Pen a réussi à faire totalement oublier ces images Et elle a finalement plutôt bien géré ce télescopage de la guerre en Ukraine, télescopage contre la présidentielle, enfin sur la présidentielle.
Tout à fait, c'est un peu le sujet hein, du grand oral de cette campagne ou non-campagne. C'est également les liens avec Poutine. Et ce qui est intéressant, c'est que pour elle a réussi, comme vous l'avez dit, à y échapper un petit peu. Mais pour Éric Zemmour, pour Mélenchon, pour beaucoup de candidats, Fillon également, même s'il ne l'est pas, on a vu hein, le sujet ressortir, eh bien, l'idée, c'était, quel est votre bilan? Quel est votre bilan de vos relations, justement, avec la Russie et avec Poutine? Emmanuel Macron a réussi à inverser, quelque part, la tendance. Ce n'est plus lui qui défend son propre bilan, c'est les politiques, les médias, qui demandent maintenant un petit peu des comptes, si je puis dire, d'une manière ou d'une autre, à ces candidats, à ces politiques, sur quelles sont vos relations, ou quelles étaient vos relations. Ensuite, un point quand même, parce qu'il est peu abordé, à chaque fois on l'aborde au moment où on ne peut justement rien faire, et il est essentiel, on a eu l'occasion un petit peu de l'évoquer, c'est-à-dire que quand elle est là en 2017, elle va voir Poutine. Il faut pas oublier que si elle peut financer justement sa campagne, c'est notamment grâce à un prêt bancaire d'une banque russe. Mais pourquoi ? Parce qu'aucune banque française ne veut lui accorder. Et ce sujet que nous, journalistes ou certains politiques, ne mettent à l'agenda qu'au moment de la campagne, c'est quelque chose qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, régler. C'est-à-dire la question des financements, des parrainages, et qu'est-ce qui fait que, justement, des candidats sont obligés d'aller taper à la porte de pays qui sont
autoritaires,
adversaires. Exactement. Ouais.
Jean-Baptiste Marteau, Marine Le Pen a finalement, c'était la bonne tactique de parler de pouvoir d'achat et finalement cette guerre en Ukraine lui a permis de rebondir sur son thème. Oui, mais l'un de ces thèmes qu'elle mettait en avant.
Exactement, mais avant de pouvoir rebondir sur d'autres thèmes, eh bien, elle a fait ce qu'on appelle en communication de crise vraiment table rase. C'est-à-dire qu'elle a tout mis sur la table en disant oui, effectivement, j'ai tenu des propos, j'ai été voir Vladimir Poutine, mais l'époque a changé, j'ai eu un prêt russe, mais parce que je n'avais pas le choix et tout. Elle a tout mis sur la table en disant maintenant, on a changé d'époque, et elle a tenu des propos derrière extrêmement durs sur Vladimir Poutine et sur sa guerre en Ukraine. Ce que Éric Zemmour n'a pas vraiment voulu faire, il n'a pas dit j'ai dit des erreurs, voilà, j'ai changé, je ne peux plus dire ce que j'ai dit à l'époque. Il a tenté effectivement de ménager la chèvre et le chou, comme un peu Jean-Luc Mélenchon qui lui dénie complètement avoir tenu des propos plutôt favorables au chef du Kremlin il y a quelques années, en disant je n'ai jamais dit ça, ce sont encore des affirmations de journalistes, moi regardez je suis non aligné, mais le fait de ne pas assumer ses propos, ça ne les aide pas forcément aujourd'hui dans cette campagne, sachant qu'évidemment à droite et du côté d'Emmanuel Macron, évidemment on pointe du doigt leurs incohérences. Marine Le Pen, elle a dit non, effectivement on a changé d'époque, j'ai pu dire ça à une époque, aujourd'hui maintenant on a changé, Vladimir Poutine a fait quelque chose d'impardonnable et donc on peut passer à autre chose. Et donc effectivement derrière, ça lui permet de parler pouvoir d'achat, de parler énergie, hausse du carburant, petite retraite, etc. Et d'être un peu audible, même si dans cette campagne tout est relatif parce que quasiment aucun thème et aucun candidat n'arrive vraiment à émerger dans le débat public.
Alors vous parlez de cette bienveillance à l'égard de ces régimes autoritaires comme Vladimir Poutine qui reviennent en boomerang contre certains candidats. Eh bien, à gauche, on pense bien sûr à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez la façon dont Anne Hidalgo a parlé de la bienveillance de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de Vladimir Poutine. C'était sur France Info. Ça se passe de commentaires. On écoute.
Il n'y a pas de troisième voie. Soit on est pour les démocraties, soit pour les dictatures. Il n'y a pas une troisième voie non alignée avec la complaisance dont Jean-Luc Mélenchon a fait preuve vis-à-vis de Vladimir Poutine, dont il a fait preuve aussi, parce qu'on peut prendre tout le sujet international vis-à-vis de Maduro au Venezuela ou encore de Bachar al-Assad en Syrie.
Mélenchon est l'ami des dictateurs ?
Je dis qu'il est complaisant avec les dictateurs, oui, ça je ne suis pas la seule à le dire.
Yasmina Jaffa, elle ne lâche rien, Anne Hidalgo. Hein. 2,5% dans les sondages, mais elle est battante, franchement, force de caractère.
Oui, c'est son tempérament.
Ah oui.
Oui. Le fait que les deux sont explicables pour des tas de raisons, mais en tout cas, ça n'enlève rien à son tempérament et à son caractère. C'est pour ça qu'il y a peut-être un malentendu à Anne Hidalgo. C'est dommage, mais c'est peut-être aussi, bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais qu'elle paye aussi un parti socialiste qui est en déshérence depuis longtemps et qui n'a pas travaillé. Mais dans une autre époque, peut-être que, en tout cas, bon, elle est encore jeune, elle pourra revenir, mais on voit bien que c'est une femme, parmi toutes les femmes qui se présentent aujourd'hui, qui tient et qui a une vraie cohérence et qui ne fait pas comme Mme Pécresse qui essaye de séduire ici et là en ne croyant pas forcément ce qu'elle dit. Par rapport à l'expérience politique, je pense que Marine Le Pen, d'un côté, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, a une expérience qu'Éric Zemmour n'a pas. Mais pourtant, Mélenchon l'a. Et c'est étonnant de voir qu'une femme comme Marine Le Pen qui décide de lâcher des obsessions, qui étaient peut-être celles de son père, et qui est plus douce et plus audible, en tout cas, faire un discours plus, qui va attirer plus de personnes, vient en contradiction avec les deux autres hommes qui sont plutôt provocateurs.
Vous parlez d'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, provocateurs, un peu audacieux, mais qui ont envie toujours de renverser la table en étant les plus disruptifs possibles. Et là, on voit bien que du coup, il y a quelque chose que les Français attendent, c'est quelque chose d'assez cohérent et non plus d'être dans l'air de je balance une phrase, un slogan, parce que quand on doit après prendre un recul par rapport à une personnalité comme Monsieur Poutine, comment faire pour devenir d'un coup d'un coup lisible en lui indiquant que c'est un homme qu'on ne doit pas soutenir. Ils sont jusqu'au bout provocateurs et c'est compliqué aujourd'hui de changer de ton.
Rachel Binas, comme si Marine Le Pen était en passe de crever son fameux plafond de verre avec ce recentrage et comme si, à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, lui, s'en était créé un de plafond de verre avec son attitude un peu sanguine ou latine, qu'il reconnaît d'ailleurs bien volontiers. Il dit « Bah oui, je m'emporte, je suis comme ça, je ne vais pas me changer ».
C'est difficile hein, de savoir vraiment ce qui relève d'un plafond de verre ou alors...
Non, mais je dis ça parce qu'il est à 12% dans les sondages et on sait très bien qu'il espère refaire le coup de 2017 où il est monté jusqu'à 19 et on y croit moins.
Peut-être. Alors, moi, je fais partie des gens, pour tout vous dire, qui ne seraient pas totalement surpris s'il arrivait au second tour.
Ah ouais.
N'oublions pas une chose, c'est que l'abstention est quand même un sujet récurrent, même aux élections présidentielles. Or, on sait que Marine Le Pen, même si elle a ce fameux vote des ouvriers, pour faire vite, c'est aussi l'électorat qui a tendance à s'abstenir le plus. Si son électorat ne se déplace pas, ça va être extrêmement compliqué pour elle, justement, d'accéder à ce second tour. Quand Jean-Luc Mélenchon a un électorat un petit peu plus transclasse, on va dire, qui est susceptible justement de se mobiliser beaucoup plus facilement. Regardez par exemple chez les jeunes. L'une des dernières enquêtes montre que c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive premier justement au sein de cette classe d'âge. Donc je serais un petit peu moins sévère peut-être. J'aurai un petit peu moins de doutes quant à la capacité de mobilisation de Jean-Luc Mélenchon. Il peut créer la surprise à gauche.
Jean-Baptiste Marteau, il peut y avoir un phénomène vote utile, hein, ce qu'on dit, pour l'honneur de la gauche. Rangeons-nous derrière le mieux placé de notre camp.
C'est le meilleur argument effectivement pour Jean-Luc Mélenchon en ce moment, c'est de se dire s'il y en a un seul à gauche qui peut arriver au second tour, c'est moi. Regardez, tous les autres ne sont même pas quelques points derrière. Ils sont vraiment complètement... largué, si on peut dire, parce que c'est un peu l'expression qui revient chez les insoumis, et se dire vraiment, je suis le seul à arriver au second tour.
Il appelle ça vote efficace.
Le vote efficace, je dis, pas vote utile, vote efficace. En revanche, effectivement, il a réussi, Jean-Luc Mélenchon, un peu contre lui, à la fois par son attitude, mais aussi sur certains points de son programme, à se fâcher avec toute une partie de l'électorat de gauche. On l'a vu effectivement sur l'international, le Parti Socialiste, là, qui effectivement, un électeur socialiste traditionnel aurait beaucoup de mal à voter pour Jean-Luc Mélenchon là-dessus.
François Hollande aussi, qui a dit, mais non, c'est n'importe quoi le vote Mélenchon, je fais court, hein, sur France Inter.
Et aussi, par exemple, sur la laïcité, où effectivement, là, et Fabien Roussel arrive d'ailleurs à émerger là-dessus, parce qu'il dit, attendez, moi, je reste fidèle aux valeurs de gauche sur la laïcité, sur l'universalisme, alors qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, avec les Insoumis, ont eu quelques compromissions sur ce sujet depuis maintenant 5 ans. Donc effectivement, ça va être dur pour lui de passer pour le rassembleur à gauche parce que sur tout un tas de points et aussi par son attitude plus que par son programme, il a réussi à s'éloigner et à se fâcher avec une partie de l'électorat de gauche.
Alors on l'a dit, hein, cette guerre en Ukraine a changé le paysage conversationnel de cette élection présidentielle puisqu'aujourd'hui, le principal sujet de conversation, c'est souvent tout bêtement le prix de l'essence. Résultat, il y a eu les dépôts pétroliers à Lorient qui est bloqué. Je vous propose de regarder ce sujet de Thomas Paga et Mathieu Baudouin.
Le face-à-face dure depuis le début de l'après-midi. Devant les CRS, un petit groupe d'artisans du BTP et de routiers. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre hier avant de revenir. Ces professionnels demandent une baisse immédiate du prix du gasoil non routier, le GNR.
Aujourd'hui, il faut du concret. Si on n'a pas de concret, pour nous, on n'est pas décidé à bouger.
Il faudrait revenir sur des bases comme l'année dernière au minimum, c'est-à-dire 0,75, 0,80 le litre de GNR.
Ça pour vous, c'est une condition pour lever le blocage ?
Ah bah aujourd'hui, oui. De toute façon, ça ne sert plus à rien d'aller travailler puisqu'on va perdre de l'argent. On ne peut pas continuer comme ça.
Les CRS pourraient décider d'intervenir à nouveau, mais comment déloger la cinquantaine d'engins de chantier qui bloquent l'entrée du dépôt de carburant? En attendant, la pénurie devient problématique. Aux alentours, plusieurs stations-service sont fermées, leurs cuves à sec après bientôt 3 jours de blocage.
Je suis solidaire, même si ça va me poser des problèmes. De toute manière, il n'y a que ce le seul moyen pour se faire entendre.
Je suis étudiant, donc j'ai besoin d'aller à l'école, etc. Mais là, ça va être compliqué. Je suis à la moitié du réservoir, donc ça va pour l'instant. Mais sinon, ouais, il est temps que ça s'arrête.
Ce garage sert encore du sans-plomb, mais plus de gasoil. Et impossible de dire aux clients quand ils pourront se fournir à nouveau.
Les gens râlent, nous téléphonent beaucoup pour savoir si on a du carburant. Alors là, aux clients, on leur a dit qu'on avait du gasoil, mais s'ils ne sont pas venus tout de suite, on n'en a plus, malheureusement.
À Brest, les manifestants bloquent encore et ont même étendu le mouvement en signe de protestation contre la garde à vue d'un dépanneur. Ils refusaient de participer à l'enlèvement des engins qui bloquent le dépôt. Les agriculteurs, eux, annoncent des opérations escargots en Bretagne dès demain.
Rachel Binas, la situation sociale est quand même assez explosive. D'autant qu'on a vu l'un des slogans, là, on s'en prend à l'État, hein, trop de charges, on va crever. En fait, derrière la hausse du prix de l'essence, ce qu'on reproche, ce sont les taxes sur l'essence et le fait de trouver une solution, quoi.
On a un petit peu oublié que le pouvoir d'achat restait une préoccupation essentielle des Français. C'est souvent la préoccupation numéro une dans les campagnes, hein, et dans les campagnes présidentielles notamment. Et en effet, ça s'impose de nouveau. Mais c'est, plus largement, c'est une crise sociale, en fait, que l'on vit, pour ne pas dire une crise de régime, qui traverse la France depuis de nombreuses années. Le problème, c'est que ils se sont liquidés les corps intermédiaires. Sauf qu'il vaut mieux des corps intermédiaires que des jacqueries. Et aujourd'hui, on peut se demander comment les humeurs du peuple, au sens de Machiavel, peuvent s'épancher. Si les partis politiques ne sont plus là, les partis politiques traditionnels, j'entends, les syndicats suffisamment puissants, etc., comme ces humeurs doivent s'exprimer d'une manière ou d'une autre, c'est dans la rue et souvent sous des formes assez violentes, justement, qu'elles le font.
D'autant que Jean-Baptiste Marteau, ce qui vient de se passer en Corse, à savoir un gouvernement qui recule après 2 semaines d'émeutes, montre que la violence, face à Emmanuel Macron, face à ce gouvernement, la violence, ça paye, ça permet de débloquer des situations. Donc là, quand on voit des dépôts pétroliers bloqués, on se dit ça va payer, comme ça a payé en Corse.
Clairement, la Corse, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, c'était vraiment le sujet extrêmement problématique pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Ça aurait fait la une de l'actualité beaucoup plus pendant au moins une semaine ou deux, ce qui est très très dommageable avant quelques jours du premier tour, parce qu'Emmanuel Macron effectivement a donné le sentiment, avec cette phrase notamment de Gérald Darmanin lâchée sur l'indépendance possible, mise sur la table.
L'autonomie
proposée par Gérald Darmanin, notamment aux indépendantistes, ça effectivement, ça peut revenir comme un boomerang. Et puis aussi, le problème de cet argent magique que dénonce assez bien Valérie Pécresse, mais ça n'arrive pas à émerger dans le débat, le fait qu'Emmanuel Macron, à force, ils l'ont bien fait, disent beaucoup d'économistes, d'avoir soutenu le pouvoir d'achat à coup d'aide, à coup de chèque carburant, à coup de chèque inflation depuis la crise du Covid, et bien là, forcément, on voit encore l'argent augmenter, le carburant augmenter pour des raisons évidemment internationales qu'on connaît bien. Et là, du coup, le gouvernement se retrouve obligé de remettre des milliards sur la table. La baisse de 15 centimes, par exemple, annoncée par Jean Castex, ça va encore coûter 2 milliards d'euros pour les 4 prochains mois. Et c'est jamais suffisant, parce que le carburant continue d'augmenter, alors que le gaz a aussi été bloqué depuis le mois d'octobre. Il va falloir continuer, et ce sera jamais assez. Et le responsable, à la fin, en tout cas aux yeux de beaucoup de Français, ce sera toujours Emmanuel Macron, parce qu'il n'aura pas fait assez, alors que déjà plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards ont été mis sur la table ces derniers mois.
Oui, Yasmina Jaffar, Le Monde, intitulé sur la droite qui reproche à Emmanuel Macron ses cadeaux électoraux. On se souvient de la fameuse phrase de Valérie Pécresse, hein, il crame la caisse, ou Xavier Bertrand, il fait campagne avec le carnet de chèques des Français. Qui va payer la note hein
ouais. C'est sûr que la pandémie, dans l'absolu, a arrêter les colères.
Question de. Oui.
Voilà. Pardon,
les colères. Allez-y. Ah oui, non, les colères, oui.
Les
oui,
colères oui. Des Français. Mais ça n'avait pas été réglé. On était sortis d'un épisode de grand débat où il a essayé, mais on était très loin de la présidentielle, donc on pouvait jouer la séduction, prendre un petit peu de risque et se faire entendre. Aujourd'hui, à 3 semaines des élections, bien sûr qu'il y a des cadeaux électoraux et qu'il y a des propositions qui soient électoralistes pour justement séduire, pour ne surtout pas que ça s'enflamme maintenant et que peut-être que l'Ukraine... C'est la posture que le président veut avoir, le président qui a autre chose à faire et qui a des coups de fil à passer. Il le dit très souvent, parce qu'il a des responsabilités incroyables et pendant 4 heures hier, il parlait d'indépendance et de force de la France. Il essaye d'être au-dessus de tout ça pour que chacun des Français puisse se dire si aujourd'hui l'essence augmente, c'est peut-être parce que il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, on nous proposait de baisser un petit peu notre chauffage par solidarité. Mais au bout d'un moment, si en effet on ne peut plus prendre sa voiture pour aller travailler, dans 3 semaines, c'est court et c'est long en même temps. Donc il faudrait quand même arriver à tenir le bon bout pendant 3 semaines.
Jean-Baptiste Marteau, on imagine la saison 2, là, cette émission est titrée « Macron dans un fauteuil ». Imaginons qu'il soit réélu. Ensuite, aura-t-il l'Assemblée nationale ? Est-ce que dans les départements, on va voter LREM ou non, les gens voteront à droite ou à gauche parce qu'ils en ont toujours eu l'habitude, depuis qu'ils sont petits, de voter pour leurs députés ? Droite-gauche.
En tout cas, ce ne sera pas un fauteuil confortable, ça c'est certain, ouais. Parce qu'il y aura de toute façon des crises, on le voit. Le pouvoir d'achat va rester une forte préoccupation et un gros problème à régler. Les législatives, on en a très peur quand même au sein de La République En Marche et ils sont nombreux à avoir soufflé à l'oreille du président cette dernière semaine qu'il faudrait dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain du second tour pour pouvoir avancer la date des législatives de 2 à 3 semaines selon les estimations.
Pour bénéficier du souffle et de l'élan de la présidentielle.
Oui, l'habitude, la présidentielle, c'est aux alentours du 7 mai, le second tour. Là, c'est 1 semaine, 2 semaines plus tôt. Donc forcément, il y a 1 mois et demi avant les législatives. Donc le risque de que le vote utile s'éloigne un peu.
Mais on n'en est pas là.
Emmanuel Macron a démenti hier.
Dimanche, on sera à 3 semaines du premier tour de la présidentielle. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info et on se retrouve dimanche pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et bon week-end.